7h24, le premier ministre du Québec, même affecté par un rhume, vient nous visiter ce matin. M. Legault, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Évidemment, c'est l'heure du bilan de session, première session pour votre gouvernement. Les sondages sont assez clairs. En tout cas, vous avez le vent dans les voiles, vous êtes dans des sommets. Quand vous voyez ça, là, vous croyez aux sondages, j'imagine, quand vous regardez les résultats?
On fait toujours attention parce que ça change vite, les sondages. Donc, pour l'instant, ça va bien. Évidemment, j'anticipe qu'à un moment donné, ça va aller moins bien, qu'on va avoir des décisions difficiles à prendre et puis que profitons de la situation actuelle.
OK. Faisons le tour d'un certain nombre de dossiers. Commençons par la laïcité. Il y a une contestation, une première. On s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. La première question, est-ce que vous attendez à voir le gouvernement fédéral porter devant les tribunaux ou soutenir des groupes devant les tribunaux?
Je pense que les politiciens au fédéral vont être prudents parce qu'ils doivent savoir, comme moi, qu'une grande majorité des Québécois sont d'accord avec nous. Donc, en plus, ils s'en vont en élection cet automne. Bon, j'ai entendu Gérard Deltel, au nom des conservateurs, dire qu'il n'y aura pas de contestation si c'est le gouvernement conservateur qui gagne.
Après les élections?
Après les élections, je pense pas.
Non.
Je pense pas parce que, encore là, ça fait consensus. Ça enlève rien à ce qui se passe dans les autres provinces. Et c'est un choix qui a déjà été fait ailleurs. Ça a été fait en Allemagne, en Belgique, en France, où on interdit les signes religieux pour certaines catégories d'employés. Donc, non, je m'attends pas à ce que le gouvernement fédéral s'en mêle. Par contre, de voir des citoyens contester, sont s'y attendaient. C'est d'ailleurs pourquoi on a utilisé tout de suite la clause dérogatoire pour éviter que ça s'éternise, là, tous ces combats juridiques, et puis qu'on soit capable d'appliquer la loi dès maintenant.
Qu'est-ce que vous allez faire si je prends l'exemple d'une commission scolaire, l'English Montreal, qui a dit au tout début, nous, on n'a pas l'intention d'appliquer, ou une ville décide de pas appliquer. Vous allez faire quoi?
La loi, c'est la loi. Pierre Arcand disait ça la semaine passée. On s'attend à avoir l'appui de tous les partis politiques à l'Assemblée nationale pour mettre de la pression. Si jamais ça arrive sur une commission scolaire, sur une municipalité, mais la loi doit être appliquée. Puis, on s'est donné...
Quand vous parlez de pression, vous voulez dire quoi, là? Avez-vous des recours en tête contre une commission scolaire, par exemple, qui refuserait d'appliquer la loi?
Bien, on l'a vu. On s'est donné certains articles dans la loi pour être capable de l'appliquer, la loi. Quand on a une loi, il faut être capable de l'appliquer. Donc, d'être capable d'avoir des gens sur le terrain qui iraient identifier quand il y a un problème. Et le gouvernement du Québec, tous les pouvoirs concernant les municipalités, les commissions scolaires. Donc, je pense pas qu'on va se rendre là, mais la loi doit être appliquée.
Mais vous êtes prêt à vous rendre là s'il le faut?
On va s'assurer, oui, que la loi soit appliquée.
De l'autre côté, il y a des gens qui vous reprochent de pas être allé assez loin. Et je vous donne deux exemples, les écoles privées. Ouais. Les employés de services de garde dans les écoles. On va se retrouver avec une école où des enseignants n'ont pas le droit, mais des employés à côté qui sont en contact aussi avec les enfants ont le droit d'avoir un signe religieux. Vous répondez quoi à ça?
L'idée, c'était de demander à tout le monde de faire des compromis. Donc, il y en a certains qui pensent qu'on est allé trop loin, d'autres pas assez loin. Le critère qu'on a essayé d'utiliser, c'est de s'adresser aux employés de la fonction publique qui sont en situation d'autorité. Si on parle d'une école privée, même si c'est financé à 60 % par le public, on considère que c'est privé. Une garderie, techniquement, a un conseil d'administration et c'est ce conseil d'administration qui est...
Non, mais le service de garde dans l'école.
Mais même le service de garde, c'est quand même... on ne peut pas dire que c'est public, financé à 100 % par le public. Les gens payent. Il y a un conseil d'administration et les gens... du conseil d'administration peuvent prendre des décisions. Mais honnêtement, on aurait pu décider de les inclure. Encore là, notre objectif, c'était d'essayer de faire des compromis, de limiter le nombre de personnes qui étaient touchées. Ça envoie quand même un message très fort, on le voit. Mais on a choisi de ne pas inclure les services de garde.
OK, mais ça fait bizarre pareil dans une école. Ce que je veux dire, l'enfant rentre là, on ne veut pas l'exposer à des signes religieux. Son prof qui est ancien en a peut-être un, son nouveau prof ne peut pas en avoir, puis la personne au service de garde peut porter un signe.
Ouais. On peut aussi se poser des questions sur la question de l'autorité. Même les enseignants, il y a des gens qui prétendent qu'ils ne sont pas en autorité. Moi, je pense qu'on parle des écoles primaires, secondaires. Un enseignant, une enseignante, c'est souvent un modèle, quelqu'un qu'on a à l'année, qui a un certain pouvoir, donne des notes. C'est différent dans une garderie, même dans les écoles. Dans les garderies, ben, on garde les enfants. Okay. Il peut avoir une partie éducative, mais je pense qu'il y a quand même une différence.
OK. Parlons immigration. Ce que je comprends, c'est que vous voulez, là, puis l'image est claire, arrimer les immigrants et le marché du travail.
Oui.
Le système Arima,
ouais.
Il va fonctionner quand?
Ben, il va fonctionner dès maintenant en passant par le ministère de l'Immigration. Puis d'ici à peu près 6 mois, les employeurs vont même pouvoir fonctionner puis choisir les employés sans passer par le ministère de l'Immigration. Donc, il fonctionne dès maintenant. Le concept du système Arima, c'est de dire s'il y a une entreprise qui a besoin de 3 employés, qui a identifié 3 employés potentiels, disons 3 soudeurs, ben, dans un autre pays, ces 3 personnes-là vont passer devant tout le monde. Pour l'instant, il va falloir que ça se fasse un peu manuellement en passant par le ministère de l'Immigration. Déjà, il y a 100 000 candidats qui ont déposé leur demande dans le système Arima.
Pourquoi c'est si compliqué? Moi, je rencontre des entrepreneurs, des entreprises qui m'écrivent. Ils ont identifié de la main-d'œuvre. Ils savent exactement qui, pour quel poste. Ils me disent tous, Québec, Ottawa, c'est une bureaucratie, c'est un capharnaüm. On n'est pas capable de faire avancer les choses et amener les gens au Québec pour travailler.
Ben, c'est absolument vrai, là. Puis c'est inacceptable. Moi, je me dis, une personne qui est capable d'un matin de prendre un bon emploi au Québec, on devrait en refuser aucun. Et malheureusement, il y a des délais, autant à Ottawa qu'à Québec, parce que bon, à Québec, jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à dimanche finalement, le système, c'était premier arrivé, premier servi. On était obligé de traiter les dossiers premier arrivé, premier servi, selon les anciens critères, où là, il y avait un système de points, où, par exemple, quelqu'un qui avait un doctorat avait plus de points que quelqu'un qui n'en a pas, même si ça ne répondait pas aux besoins du marché du travail.
Mais là, quand vous dites prioriser, est-ce que vous priorisez le type d'emploi? Je vous donne un exemple. J'ai une entreprise, j'ai besoin de spécialistes en informatique, c'est une chose, mais j'ai un restaurant, puis je ne suis pas capable de trouver de la main-d'œuvre. Qui passe avant?
Bon. Effectivement, là, ça, c'est un très bon point. Le défi qu'on a, toutes les sociétés industrialisées aujourd'hui, il y a presque un plein emploi partout. Et ce qu'on veut, nous, c'est de créer des emplois payants. Donc, on va prioriser quelqu'un qui arrive en informatique que quelqu'un qui arrive pour travailler dans un commerce de détail. Vous savez, au Québec, le salaire moyen, c'est 49 000. Et en Ontario, c'est 53 000. Puis ce 4 000 $-là, nous fait très mal sur les revenus du gouvernement du Québec. Donc, moi, ma priorité, c'est vraiment de prioriser, autant chez nous, avec la formation, que dans le choix des immigrants, les emplois où il y a de la valeur ajoutée.
Mais là, vous comprenez que les restaurateurs, les gens de l'hôtellerie vous disent, OK, moi, je vais avoir de la misère à me trouver de la main-d'œuvre, puis le gouvernement ne va pas m'aider bien gros, là.
Oui, bien effectivement, puis c'est vrai dans tous les pays industrialisés. Les gens qui payent des salaires de 15-20 $ de l'heure, comme dans certains restaurants, comme dans certains secteurs du tourisme, comme dans certains magasins de détail, vont avoir de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Parce que si on offre à une personne, est-ce que vous préférez un emploi à 15 $ de l'heure ou un emploi à 25-30 $ de l'heure? Bien, les gens préfèrent des emplois à 25-30 $ de l'heure où ils servent de leur apprentissage, donc qui sont des emplois avec plus de valeur ajoutée. Donc, il va y avoir une période de transition. C'est sûr qu'il y a des concepts, des styles d'entreprise comme Amazon, pour ne pas les nommer, qui vont remplacer certains magasins de détail. C'est vrai aussi que toute l'arrivée des robots, là, c'est pas juste pour les films de science-fiction. Il va y avoir de plus en plus d'emplois manuels qui vont être remplacés par des robots. Puis les gens qui vont travailler, bien, ils vont travailler en utilisant leur tête avec plus de valeur ajoutée et avec des meilleurs salaires.
On va parler d'environnement. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de taxes additionnelles, il n'y aura pas de tarifs. On paie déjà une taxe et on a mis ça dans le fonds vert, qui est un désastre financier. À quand le moment où on va savoir ce qu'on fait avec tout cet argent puis à quoi ça va servir pour vrai?
Oui. Bien, effectivement, le fonds vert, il y avait une dizaine de ministères qui pigeaient dans le fonds vert sans aucune reddition de compte, sans jamais tenir compte de l'impact sur la réduction des GES. Là, on va reprendre le contrôle du fonds vert. Et puis, on va choisir les projets de façon optimale. C'est-à-dire que je veux que chaque projet qui est choisi soit le projet où chaque dollar permet de réduire le plus les GES au Québec. Donc, ça peut être des entreprises privées, ça peut être des ministères, ça peut être des municipalités, mais on va y aller avec les projets qui réduisent le plus les GES. C'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début.
OK. Parler de police un peu quand même.
Oui.
DPCP, UPAC. Oui. L'enquête mâchurée, trouvez-vous que ça prend du temps?
Oui, c'est l'impression que j'ai.
Tapez-vous du pied, ça vous rend-tu impatient?
Oui, puis bon, vous savez, on a adopté pendant la session un projet de loi où, à l'avenir, les dirigeants de ces organismes vont être choisis par un vote du 2/3. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être certain, puis je dis pas que c'est le cas, là, mais on va être certain que ces personnes-là sont pas en train de protéger des politiciens qui sont au pouvoir.
C'est parce que là, je regarde la situation. Là, actuellement, je comprends qu'il y a cette nouvelle mesure, là, mais l'UPAC est dirigé par quelqu'un par intérim. La Sûreté du Québec a été décapitée. Ouais. Les enquêtes traînent. J'ai un rapport qui nous dit que les enquêteurs n'ont pas la formation pour faire vraiment un combat contre les fraudeurs économiques. Puis en plus de ça, le DPCP n'a pas l'air à s'occuper trop de faire pousser des dossiers. Moi, je suis un citoyen, là. Je regarde ça, puis je me dis qui protège qui, puis que fait la police, puis que font les procureurs.
Bien, je me pose la même question que les citoyens. Maintenant, bon, il y a des enquêtes qui sont en cours. C'est long, entre autres pour la police de Montréal. Donc, dès la rentrée, on va s'assurer de choisir des personnes permanentes, peut-être des civils, des gens qui vont être chargés d'aller s'assurer, justement, que ces organismes soient gérés avec efficacité puis sans protéger personne.
Mais vous avez
c'est pas toujours simple.
Non, mais vous avez l'air
s'entendre
de dire
avec l'opposition sur le choix des personnes, mais on va le faire et puis on va être capable de rassurer la population.
Vous avez l'air de me dire que vous avez un doute sur, appelons ça, des enquêtes teintées politiquement. Que des officiers, là, haut gradé, ont protégé les libéraux.
Écoutez, j'ai pas plus d'informations que vous. Moi, je me suis pas mis les mains, puis il n'y a aucun politicien qui devrait se mettre les mains dans ces organismes. Mais comme tout le monde, je me dis, c'est long, ça aboutit pas. Pourquoi? Et puis, la meilleure façon qu'on soit rassuré, c'est de nommer des personnes indépendantes avec l'appui des partis d'opposition.
Okay. Faire le tour, parce que le temps file rapidement. Là. L'agriculture, Louis Robert, vous êtes excusé. Êtes-vous sérieux quand vous maintenez André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, alors qu'il a fait une gaffe, alors que le ministère a l'air contrôlé pas mal ou influencé, sous forte influence de l'entreprise privée?
Non. Moi, là, je connais André Lamontagne depuis un certain temps. Il vient d'une famille d'hommes d'affaires. Là. Son père, c'est un des fondateurs de Provigo. Il a eu plusieurs petites entreprises dans sa vie. André, c'est un excellent gestionnaire. Dans le dossier de Louis Robert, c'était une décision qui était administrative. Le sous-ministre n'a pas suivi la procédure. Et la protectrice du citoyen nous a démontré que le dossier avait été mal géré. Mais la gestion du personnel, là, puis peut-être ça, André l'a appris, ça relève du sous-ministre, ça relève pas du ministre. Il faut pas que les ministres commencent à aller gérer le personnel. Puis je peux vous dire une chose, là, ni moi ni André, on est influencés par des lobbies, et sûrement pas le lobby
ah non,
des
mais
pesticides.
Ils ont pas besoin d'influencer le ministre, ils ont leur place, les sous-ministres sont bien, bien, bien influencés par les lobbies. Je pourrais vous donner bien des exemples. Moi, ça m'inquiète comme citoyen de voir, pas le ministre nécessairement, mais la machine de l'agriculture pas mal influencée.
Bon. Donc, ça va être très important. Le prochain sous-ministre ou la prochaine sous-ministre qu'on va nommer va essayer de choisir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas dans ces réseaux-là, pour être bien certain que ce n'est pas le cas. Donc, moi, je veux m'assurer, là, puis je vous le dis, M. Arcan, il n'est pas question que le lobby des pesticides là vienne influencer les décisions qui sont prises au ministère de l'Agriculture.
OK. Lionel Carman, c'est un ami.
Oui.
Comme ministre responsable de la DPJ, là, quand tu annonces un plan d'action puis qu'il n'y a pas de mesure qui vient avec, ça ne fait pas un plan d'action bien, bien sérieux.
Oui. Écoutez, d'abord, le plan d'action dont on parle, c'était le plan d'action des libéraux qui était très flou. Lionel est en train de préparer un plan d'action. Lionel Carman, je le connais depuis longtemps. C'est un médecin qui spécialise auprès des enfants à Sainte-Justine, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et actuellement, là, je peux vous dire qu'il travaille comme un fou à faire le tour de toutes les DPJ des différentes régions du Québec pour voir comment et on peut se donner un plan, ajouter les ressources. Moi, je lui ai promis, là, on a ajouté un 18 millions, mais si c'est nécessaire d'en mettre plus, on va en mettre plus pour qu'on élimine les listes d'attente, qu'on s'assure aussi d'avoir des gens compétents, qu'on s'assure aussi d'avoir des dirigeants qui forment leurs employés, qu'il n'y ait pas un taux de roulement comme on a connu les dernières années.
Il y a des ressources quand un juge donne une ordonnance qui prévoit, alors que dans les faits, souvent, ça n'arrive même pas.
Il y a des ressources, et puis bon, avec Régine Laurent, la commission va se pencher même de façon plus large. Comment se fait-il que des enfants maltraités, puis on le sait dans les écoles, que ça ne se rende pas à la DPJ? Est-ce que la loi doit être changée? Est-ce qu'on protège trop des parents biologiques qui sont pas responsables envers leur enfant? C'est tout ça qu'on va regarder, mais moi, j'ai très confiance à Lionel. Lionel est en train d'apprendre comment dealer avec les journalistes, mais c'est un homme très compétent.
On parlera d'éducation plus en profondeur une autre fois, parce que quand même, c'est une des priorités, un chantier. Là, je dois conclure. Comment vous allez occuper Simon Jolin-Barrette?
Bon, Simon, d'abord...
C'est un hyperactif?
Oui, Simon, c'est un gros travaillant. Un des dossiers importants sur lequel il va commencer à travailler après quelques semaines de repos, c'est tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On l'a vu, là...
sérieusement, on a eu pensé qu'il va trouver que c'est assez glamour, ça? Ah, c'est pas que c'est pas important, mais ça n'a pas le même exposure.
Non, mais écoutez, les Québécois sont fâchés de voir les pertes de temps
oui.
en commission parlementaire, l'étude des crédits, comment on fait pour avoir des études de crédit qui soient efficaces, la période de questions.
Il y a trop de temps, il va chicaner avec Sonia Lebel. Puis,
Ben non. Écoutez, moi, j'ai beaucoup de ministres forts. C'est un grand défi d'être sûr que tout le monde travaille ensemble, mais j'aime mieux avoir trop de ministres forts que pas assez.
M. Legault, merci d'être venu ce matin.
Merci, M. Arcand.
François Legault, premier ministre du Québec, 7h41.